dans le Notre Père que la sixième demande est traduite ainsi et dite dans toutes nos églises depuis peu après le Concile de Vatican II, où nous disons « Ne nous soumets pas à la tentation ». Cette traduction, comme l'ensemble du Notre Père, était issue d'un consensus écuménique qui donc a été fait à la suite de Vatican II, et tout le monde s'était mis d'accord sur cette traduction. L'ensemble de la traduction du Notre Père pose beaucoup de problèmes, et la majorité des théologiens aujourd'hui s'accordent pour dire qu'elle est mauvaise, mais elle a l'avantage d'être commune à toutes nos églises. Mais dans ces mauvaises traductions, la demande qui pose le plus de problèmes théologiques, apparemment, c'est la sixième, où donc nous disions « Ne nous soumets pas à la tentation ». Et vous savez que le Conseil des évêques de France a fait une demande au Vatican de pouvoir changer cette traduction et de dire non pas « Ne nous soumets pas à la tentation », mais « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation » ou « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Il semblerait que, en fait, l'Église catholique ait fait cette décision d'une façon non pas unilatérale, mais elle avait posé la question à la Fédération protestante de France de savoir si elle était d'accord pour qu'on change cette demande. Et la Fédération n'ayant pas répondu, l'Église a fait son travail. Et par conséquent, l'Église protestante unie a elle-même été ensuite saisie de la question de savoir si nous devions suivre l'Église romaine dans cette nouvelle traduction ou pas. Or, le synode national de 2016, de l'Ascension dernier, a donc décidé que nous nous alignerions sur cette traduction et que le plus important était que les chrétiens disent le Notre Père ensemble de la même manière. Et donc, officiellement, nous sommes invités à dire dans nos liturgies « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Mais donc la question, elle est avant tout théologique, parce que même cela a suscité d'importants débats, même au sein de l'Église, sur le sens de cette demande. Et il est vrai que cette demande pose un problème, parce que dire « ne nous soumets pas à la tentation » laisse supposer que Dieu pourrait nous tenter, c'est-à-dire nous pousser au mal, et je pense, comme beaucoup, que cela est proprement inadmissible. Alors il est vrai que, néanmoins, on ne peut pas répondre aussi brutalement à cette question, parce que la tentation elle-même est présente dans la Bible, et même avec Dieu pour sujet. Il faut en effet savoir que « tenter », la tentation, « peirasmon » en grec, signifie aussi bien « tenter » que « éprouver ». Or, on a bien des exemples dans l'Ancien Testament où Dieu tente, où Dieu met à l'épreuve. Ces exemples, c'est tout d'abord, bien évidemment, le livre de Job. Vous savez, cet homme qui était tellement juste et sage que Dieu se félicite d'avoir un fidèle aussi parfait. Et le diable lui dit, c'est pas compliqué d'être parfait quand on n'a pas de problème, envoie-lui 2-3 épreuves et tu verras qu'il te reniera. Et donc Dieu laisse faire le diable, et le diable va envoyer des tas de malheurs à Job, qui donc ne maudira pas le nom de Dieu. Ainsi, il y a bien une mise à l'épreuve dans le livre de Job, encore que on pourrait dire que dans ce livre, ce n'est pas Dieu qui tente, mais c'est bien le diable, dont le nom d'ailleurs est le tentateur. Mais la référence la plus évidente à la tentation dans l'Ancien Testament, c'est bien sûr l'histoire d'Abraham. Abraham, dans la Genèse, quand on dit « Dieu mit à l'épreuve Abraham ». Et vous savez, il lui demande de lui consacrer son fils, de lui sacrifier son fils Isaac. Et d'après la lecture, je dirais, populaire de ce texte, on a l'impression, en effet, que Dieu saura ainsi que la foi d'Abraham est grande et qu'il est digne d'hériter de la promesse, puisqu'il a été prêt à sacrifier à Dieu ce qu'il avait même de plus précieux, qui était son fils unique. Oui, cela se trouve dans l'Ancien Testament, mais écoutez, pour tout vous dire, j'avoue qu'il y a parfois dans l'Ancien Testament des images de Dieu qui ne me conviennent pas. Et je pense que tout n'est pas à prendre tel quel dans l'Ancien Testament. Personnellement, je me sens absolument étranger à ce type de théologie. C'est-à-dire que je ne crois pas que Dieu puisse jouer avec nous pour nous envoyer du mal, des épreuves, des tentations, pour voir simplement si on tient bon. Je pense que Dieu sait lire dans les cœurs, que Dieu nous connaît mieux que nous nous connaissons. Et donc Dieu n'a pas besoin, je dirais, d'aller jouer avec nous, à nous tenter, comme autrefois les maîtresses de maison s'amusaient à vérifier l'honnêteté de leur bonne en laissant traîner un billet de quelques francs ou quelques euros sur une table pour voir si la bonne volerait le billet. C'est lamentable. Et j'ai honte de ceux qui ont fait ça il y a quelques décennies dans notre société, et j'aurais honte de Dieu s'il jouait de cette façon-là avec nous. Donc non, je ne crois pas que Dieu puisse, je dirais, prendre plaisir à nous voir souffrir, puisse prendre plaisir à nous mettre dans des situations inextricables, uniquement pour voir. Cela me semble absolument contraire à l'idée d'un Dieu infiniment bon et plein d'amour, comme je le crois. Et puis, d'autre part, ces textes peuvent être lus autrement. Vous savez, tout est une question d'interprétation. Et même cette histoire du sacrifice d'Abraham, d'Isaac par Abraham, on en a déjà parlé ici. Il y a d'autres façons de le lire que dans le sens de cette lecture naïve d'une sorte de test que ferait Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, les choses sont un peu différentes. Mais mon honnêteté me pousse à vous dire que néanmoins, pas entièrement. On trouve peu de passages dans le Nouveau Testament où Dieu serait à l'origine de mal, c'est-à-dire d'épreuves, de tentations, de difficultés. On en trouve peu. À mon avis, pas, ou presque pas, parce que s'il y a quand même un passage. Ce passage que personnellement je ne comprends pas, je travaillerai un jour, je vous le promets, je prêcherai dessus peut-être. Apocalypse 3, 19, où il est écrit « Dieu châtie ceux qu'il aime ». Dieu châtie ceux qu'il aime. Écoutez, ça y est, je dois admettre que ça se trouve dans la Bible, mais personnellement, je ne peux pas le lire comme ça, tel qu'il est. Il faudrait comprendre le contexte, voir ce que l'Apocalypse veut dire, pourquoi ça a été dit, comment et historiquement ça correspond à quoi. Parce que je ne crois pas qu'on puisse tirer trop de conclusions d'un seul verset de la Bible. La Bible n'est pas un traité de théologie homogène, et on trouve des choses parfois discordantes, mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, par cohérence avec l'ensemble du reste du Nouveau Testament, cette phrase me semble discordante. Voilà. Parce que le Christ lui-même n'abordera pas absolument directement cette question, encore que parfois si, quand les disciples lui demandent pourquoi ces gens ont été éprouvés, pourquoi ces Galiléens qui ont reçu la tour sur la tête, pourquoi ceux-là qui ont été tués par Pilate. Et Jésus dit, écoutez, c'est comme ça, il n'y a pas de raison, ils ne sont pas plus grands pécheurs que d'autres. Mais en tout cas, à aucun moment, le Christ ne laisse supposer que ces malheurs qui arrivent à ces gens puissent être envoyés par Dieu, par une sorte de volonté un peu perverse de voir s'il garderait la foi jusqu'au bout. Et donc non, le Christ, lui, ne rentre pas dans cette logique. Et je pense que pour une question de cohérence théologique, on ne peut pas, je dirais, donner trop de place à ces quelques mots de l'Apocalypse. Et puis, il y a aussi des passages clairs dans le Nouveau Testament, en particulier ce passage de l'Épître de Jacques, qui n'a peut-être pas beaucoup plus de valeur d'ailleurs que celui de l'Apocalypse. Hein. Ce sont deux textes très tardifs. L'Apocalypse n'a jamais été écrit par l'apôtre Jean et l'Épître de Jacques n'a jamais été écrite par Jacques. Donc tout ça sont des textes tardifs du début du IIe siècle. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même ce texte de l'Épître de Jacques qui là est tout à fait clair et qui dit que personne, lorsqu'il est tenté ou éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui me tente ou m'éprouve », puisque c'est le même mot, « car Dieu ne tente personne ». On ne peut pas être plus clair. En tout cas, j'assume qu'au nom de ma lecture de l'Évangile, je crois que Dieu n'est que source de bien et qu'il ne peut en aucun cas être source directe du moindre mal dans nos vies. Alors, comment lire cette demande du Notre Père? Certains maintiennent la vieille demande, ne nous soumets pas à la tentation, et s'ils le font, c'est en disant que par tentation, en fait, il faut comprendre épreuve. Et que le mot épreuve nous ramène à des tas d'épreuves que nous subissons, et nous devons en effet comprendre que les épreuves en soi ne sont pas forcément un mal, et que les épreuves nous font grandir. Ça, c'est vrai, tout le monde peut l'expérimenter et peut en témoigner. Les épreuves dans nos vies, certes, sont désagréables, et nous ne les souhaitons pas. Pourtant, nous devons reconnaître qu'avec le recul, ces épreuves ont en général été positives pour nous. Bon, si elles ne sont quand même pas trop fortes, mais la plupart des épreuves que nous avons subies nous ont aidés à grandir. Que les épreuves nous donnent du recul par rapport au monde, par rapport aux événements, par rapport à beaucoup de choses. Elles nous donnent de la maturité. Elles nous donnent une certaine distance, je dirais, une certaine philosophie de la vie. Les épreuves nous attendrissent aussi et nous rendent plus humbles, plus sages peut-être, plus tolérants, plus capables de compatir avec les autres. Donc oui, ces épreuves sont bonnes parce qu'elles nous aident à relativiser certaines choses et à nous recentrer sur l'essentiel. Donc on pourrait dire effectivement que ces épreuves sont bonnes et souhaitables. Et que par conséquent, si les épreuves sont bonnes et souhaitables, pourquoi Dieu ne nous enverrait-il pas des épreuves pour nous faire grandir? Voilà l'argument. Mais attention, moi j'ai fait de la théologie, mais j'ai fait aussi de la logique. Et là, l'argument de ceux qui maintiennent la vieille traduction ne tient pas. Parce que si l'on dit que les épreuves sont bonnes et voulues par Dieu, pourquoi on lui demanderait tous les jours de ne pas nous en envoyer? On devrait dire au contraire, Seigneur, envoie-moi plein d'épreuves que je grandisse. Envoie-moi encore des épreuves et encore des problèmes et encore des choses que je puisse découvrir la relativité du monde, que je puisse m'attendrir, m'humilier, etc. Mais non, nous disons, ne nous soumets pas. C'est qu'on suppose donc qu'il n'en faut pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si les épreuves sont bonnes et signes de l'amour de Dieu, si c'est par elles que Dieu continue son projet créateur à notre égard, alors nous ne demanderions pas à Dieu de nous en préserver. C'est incohérent. J'avoue que cette piste de la mise à l'épreuve par Dieu me semble une impasse. Ou alors il faudrait dire, non pas « ne nous soumets pas à la tentation », mais dire plutôt « Seigneur, ne nous envoie pas des épreuves trop difficiles pour nous ». Ah oui, ça c'est vrai, oui. Mais ce n'est pas ce qu'il y a écrit malheureusement. Mais ça, l'idée est belle, « ne nous envoie pas des épreuves trop difficiles pour nous ». Et ça, c'est, vous savez, ce n'est pas que depuis l'ascension 2016 que cette question est posée. On la trouve dès le IVe siècle, ou même avant. Et il y a dans un vieux manuscrit du IVe siècle une glose, c'est-à-dire un commentaire à côté du Notre Père qui justement inclut cela, en disant quand nous disons « ne nous soumets pas à la tentation », ça veut dire « ne nous soumets pas à une tentation trop forte pour nous ». L'idée est belle, elle n'est pas mauvaise. Mais ce n'est pas ce qui est écrit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas satisfaisant pour expliquer un texte que de le remplacer par un autre. C'est d'ailleurs dommage parce que cette idée, oui, est belle, effectivement, et elle irait dans le sens de ce passage de Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, quand il dit « Aucune tentation, ou donc aucune épreuve, une fois de plus, ne vous est survenue qui n'ait été humaine ». Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ne dis pas que c'est Dieu qui est à l'origine de la tentation, mais comme si Dieu pouvait retenir le mal, de telle sorte que le mal ne soit pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation ne vous sera envoyée qui ne soit trop forte, et Dieu vous donnera toujours le moyen d'en sortir. Ce verset, ça fait des années et des années que je le connais. Et pour tout vous dire, des années que j'essaye d'y croire et des années que j'en doute. Oui. Parce que, non pas moi, j'allais dire grâce à Dieu, je n'ai pas eu trop d'épreuves. Donc je retombe dans une théologie païenne que j'essaye de dénoncer. Mais par contre, pastoralement, j'ai vu des gens brisés par des épreuves trop fortes pour eux. Et j'ai vu des gens accablés de choses qu'ils ne pouvaient pas surmonter. Et j'ai vu, oui, j'ai vu des vies brisées. Et donc, comment dire, aucune épreuve ne vous sera envoyée qui ne soit trop forte. Est-ce que vraiment c'est vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'espère et je veux y croire. Oui, bien sûr, je veux y croire parce que il faut partir gagnant et il faut se dire que quelle que soit l'épreuve, la vie est toujours possible. Que quelle que soit l'épreuve, avec l'aide de Dieu, toujours, on peut ressusciter, on peut se relever, on peut repartir et on peut même retrouver de la joie de vivre. Je veux le croire. Et finalement, je crois que c'est vrai, mais je n'ose pas le dire, parce que qui suis-je moi pour dire à celui qui est brisé, « Mon ami, tu manques de foi, tu devrais t'en sortir. » On fait un peu ce qu'on peut dans la vie. Mais néanmoins, j'ai vu aussi des gens accablés d'épreuves plus inimaginable qu'on puisse penser et arriver à se relever, à ressusciter, je dirais, et à revivre, et à redonner, et à repartager, et à retrouver de la joie dans ce monde. Donc j'en ai vu, oui, et donc je crois que c'est possible. Donc Paul a raison de le dire, parce que même si nous n'avons pas en nous ce recours, cette force suffisante pour surmonter tout, il le dit bien, Dieu vous donnera le moyen d'en sortir. Donc il y a en Dieu une puissance infinie qui peut nous aider, qui est plus forte que tout. Donc oui, je crois. Finalement, Paul a raison. Et je me mets moi-même à son écoute et je veux faire taire cette petite voix obscure de mon cœur et dire, je crois Seigneur. Je crois que Dieu est une puissance d'amour et de vie et de joie plus forte que toute la haine, toute la violence, toute la tristesse, tout le deuil qu'il peut y avoir dans le monde. Dieu, il est tout, il est la puissance même, il est le créateur du monde. Dieu est capable de transformer tout le mal en bien, transformer la mort en vie, de transformer les pleurs en rire. Donc oui, Dieu de ce côté-là est une sorte de toute puissance d'amour et qui est évidemment plus forte que toutes ces misères humaines qui finalement sont peu de choses par rapport au cours même du cosmos, dirais-je. Donc oui, certainement, croyons que Dieu, si même en nous il y a des épreuves peut-être plus fortes que nous, rien n'est plus fort que Dieu. Mais en tout cas, je reprends le fil de ma discussion et à propos du Notre Père, en tout cas là pour Dieu, pour Paul, Dieu n'est pas nécessairement l'origine de l'épreuve. Il est juste le moyen d'en sortir. Et ça, c'est vrai. Vous savez, on n'a pas besoin de Dieu pour être éprouvé. La vie s'en charge. La vie s'en charge très bien. Et parce que vivre, c'est s'exposer à des épreuves. Vivre, c'est sans cesse assumer le fait que l'on rencontre des difficultés. Sinon, il ne faut pas vivre. Dès notre plus jeune âge, vivre, c'est apprendre à intégrer des événements qui ne vont pas dans le sens de ce que nous voudrions. Vivre, c'est gérer la contrariété. Vivre, c'est lutter contre le mal, contre le désordre, contre la mort, contre la souffrance. C'est ça, vivre. Et avoir la foi dans la vie, c'est l'accepter. Parce que sinon, eh bien, on ne ferait rien. On n'irait pas dehors parce qu'on risque de se faire de se tordre la cheville. On ne se marierait pas parce qu'on risquerait de divorcer. On ne ferait pas d'enfants parce qu'ils risqueraient d'être déplaisants à l'adolescence. Et on ne se ferait pas d'amis parce qu'on risquerait de les voir mourir. Enfin, on ne ferait rien. Mais dès que l'on fait un acte de vie, on s'expose de toute façon à l'épreuve. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'on n'a pas besoin que Dieu en rajoute. Merci. Des épreuves, il y en a bien assez dans la vie. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la peine de croire dans un Dieu qui va vous en remettre des seaux et des seaux sur la tête. Si Dieu est ça, eh bien moi j'en ai assez, je vais chercher ailleurs. Mais je crois au contraire que dans cette vie, qui est effectivement une succession de victoires à gagner, de barrières à franchir, de deuils à surmonter, eh bien dans cette vie, il y a un Dieu qui est source de salut, source de confiance, source de paix, source de vie et de tranquillité. Si jamais je pouvais supposer que Dieu, en plus, dans ma vie difficile, s'amuse à me rajouter des chausse-trappes, rajouter des obstacles, rajouter des problèmes, eh bien, je ne vois pas comment je pourrais dire « Mon Seigneur Dieu, je t'aime ». Parce que je veux bien être parfois un peu masochiste, mais quand même pas trop. Donc non, Dieu ne tente pas. Je n'y crois pas. Dieu ne tente pas et Dieu n'éprouve pas. Sur ce point, je suis d'accord avec Jacques. Tenter, c'est le rôle du tentateur. Ça, c'est un des noms du diable, d'ailleurs. Et le diable, ce n'est pas une personne. Le diable, c'est le mal en général. C'est le dysfonctionnement du monde. Et d'ailleurs, si vous regardez dans l'Évangile, Jésus est tenté. Mais il n'est pas tenté par Dieu. Le texte dit bien, il fut envoyé dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, d'accord, le « ne nous soumets pas à la tentation » est absurde. C'est absurde d'un point de vue d'une théologie, je crois, évangélique. Et par conséquent, je pense que c'était une mauvaise traduction, point. Et donc, les catholiques, comme les protestants, ont bien fait d'essayer d'en trouver une autre. Tout d'abord, le mot « soumettre », « ne nous soumet pas », ne se trouve pas dans le texte original. Le verbe qu'il y a dans le texte grec qui nous est parvenu de notre Père, c'est « isenekin ». Isenekin ne veut pas dire soumettre, ne veut jamais dire soumettre. C'est un verbe qui veut dire tout simplement entrer, faire entrer. Comme c'est le même verbe que l'on trouve quand il y a dans l'évangile de Luc, vous avez ce paralytique qui veut approcher de Jésus et on dit que ses amis le font entrer dans la maison par le toit. Isenekin, faire entrer dans une maison, dans une chambre, comme dans une cellule. Et ainsi, c'est bien ça, c'est plutôt « fait que nous n'entrions pas dans l'épreuve ou dans la tentation comme, je dirais, comme pour y être enfermés, que nous ne soyons pas mis dans le mal comme si nous y étions enfermés comme dans une cellule et comme si nous y étions prisonniers, mais délivre-nous du mal. » C'est ça le sens réel et premier de l'affaire. Et donc Dieu n'est pas le sujet de l'épreuve. L'épreuve, elle est là. Ce que nous lui demandons, c'est de ne pas nous y enfermer. Et d'autre part, la négation qui est au début de la demande, ne nous. Vous savez, le grec, c'est du grec. Enfin, c'est du grec de synagogue. Hein, c'est de l'hébreu en fait. C'est une langue très 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 simpliste. Et en fait, il y a une négation. Pas. Ensuite, il y a entrer dans tentation. Alors, entrer dans tentation, ah non, Seigneur, pas toi. Alors, comment le traduire? Il y a deux façons de le traduire. Soit ça fait ne nous fais pas enfermer dans l'épreuve, et donc ne nous enferme pas dans l'épreuve, c'est-à-dire Dieu est le sujet de l'enfermement. Soit ça peut être compris, d'après ma vieille grammaire, comme un factitif, c'est-à-dire « fait que nous ne soyons pas enfermés dans l'épreuve ». Autrement dit, la négation ne suppose pas que Dieu soit le sujet de l'enfermement, mais au contraire, le sujet de la libération. Et donc voilà, si on veut regarder le texte de près, deux traductions possibles et autorisées par la grammaire. Soit « ne nous fais pas enfermer dans l'épreuve », ce qui revient au « ne nous soumets pas à la tentation », soit fait que nous ne soyons pas enfermés dans la tentation ou dans l'épreuve. Les deux sont possibles grammaticalement, donc les deux sont possibles, je voulais que je vous dise. Après, c'est un choix théologique, c'est-à-dire que le seul moyen de choisir entre les deux traductions, c'est une option théologique. J'espère avoir démontré que je préfère la deuxième option, fait que nous ne soyons pas enfermés dans l'épreuve. Nos nouveaux traducteurs ont mis « ne nous laisse pas enfermer », ce qui, à mon avis, est un peu faible, parce que dans « ne nous laisse pas enfermer », Dieu se contente d'être passif et de ne rien faire. Alors que le « fait que nous ne soyons pas enfermés » a quelque chose de plus actif, de plus directif. Mais je suppose qu'il devait y avoir aussi des contraintes de rythme. et qu'il fallait que la traduction, la nouvelle traduction, fasse la même longueur que l'ancienne pour qu'on puisse facilement dire les deux en même temps sans que ça fasse de cacophonie. Et donc ils ont mis « Ne nous laisse pas enfermer en tentation, pourquoi pas ?» En tout cas, c'est bien ça, je crois. C'est que pour moi, Dieu n'étant pas l'origine du mal, ce que nous lui demandons, c'est de nous donner son aide pour que nous ne soyons pas enfermés, prisonniers de cette épreuve, mais qu'il nous ouvre un chemin afin que nous puissions continuer d'avancer et de marcher positivement dans cette vie. Et ça encore, je ne suis pas le premier à le dire. Vous savez, c'est ce que proposait Origène. Origène, c'est un grand penseur chrétien du début de l'ère chrétienne qui, dans son livre sur la prière, commente ainsi cette demande. Je pourrais le signer. « Aussi demandons-nous d'être délivrés de la tentation. Non pas d'être tentés, ce qui est impossible, surtout aux hommes de la terre, mais de ne pas succomber lorsque nous sommes tentés. Celui qui succombe à la tentation entre, à mon avis, dans la tentation, puisqu'il est pris dans ses filets. » Et en ce sens, la vieille traduction que connaissent les plus anciens d'entre vous, « Ne nous laisse pas succomber dans la tentation », n'était absolument pas littérale, mais théologiquement, elle me semblait beaucoup plus juste que celle que nous avons aujourd'hui. Ou alors soumettre, si, alors on aurait pu garder ce mot soumettre, qui ne se trouve pas dans l'original, mais il y aurait quelque chose de beau qu'on pourrait comprendre ainsi, en disant qu'on demande à Dieu que nous ne soyons pas soumis dans l'épreuve, c'est-à-dire comme l'ennemi écrasé est soumis par le vainqueur. Et finalement, c'était pas bête cette histoire de soumet, fait que nous ne soyons pas soumis dans la tentation, c'est-à-dire anéanti comme un ennemi vaincu et incapable de se relever. Mais donc dans l'épreuve, il y a toujours la tentation de s'y enfermer, effectivement. Et l'épreuve est une tentation parce que la tentation de l'épreuve, c'est d'y rester et de se considérer comme vaincu au lieu de se relever pour en sortir. Et ça, je vous ai dit, c'est une chose sérieuse. Et pour ça, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour ne pas chuter. Et je pense que cette demande du Notre Père nous rappelle que Dieu est la source de la vie. Il est notre recours dans la faiblesse. C'est Dieu qui est notre rocher quand tout semble vaciller. Il est notre force quand nous nous sentons faibles. Et nous croyons toujours que c'est avec nos propres forces, nos propres ressources que nous vaincrons. Le Notre Père nous rappelle chaque jour que c'est avec la force de Dieu que nous pouvons vaincre et nous relever. Parce que Dieu est celui qui ouvre une porte dans nos vies. Dieu, c'est la fenêtre ouverte vers le ciel du prisonnier dans sa cellule. Il voit le ciel. Et c'est plus qu'une fenêtre. Dieu ouvre la porte et il nous donne la possibilité de sortir. Dieu est celui qui nous libère, qui ouvre une route devant nous, qui fraye un passage là où il ne semblait pas y en avoir. Et c'est ce que j'aime dans ce que je trouve dans ce psaume 31, que je trouve être un commentaire complet de cette demande, en fait. Magnifique psaume, dans lequel il y a ce verset, alors ça c'est dans la traduction écuménique liturgique, où il dit « Ton amour me fait danser de joie, tu vois ma misère et tu sais ma détresse, mais tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, et devant moi, tu as ouvert un passage. » Amen.